C'est dans les beiges, vous n'auriez pas ma taille?
Bah, Martine, quoi? Qu'est-ce que tu fais là? Enfin, arrête d'embêter Madame Stenner, voyons.
Mais non, elle m'ennuie pas, Raymond. Laissez-nous, s'il vous plaît.
Ah bon?
Quand j'aurai du 3, je vous les apporterai. Et vous, Nadine, vous n'en prenez pas?
Oh, c'est pas que ça me tente pas, mais j'ai pas les moyens. Non? Je mets de la teinture?
Oui, moi aussi, c'est de la teinture.
Ah oh, oui, mais toi, tu finis, tu dessines même la couture.
Ah oui. Ah oh, oui, quel raffinement.
Ouais, on fait la couture avec un pinceau, puis pour que ce soit bien droit, c'est plus prudent de se faire aider.
La vache soupire.
Ça fait 3 fois que je me fais engrosser par un Bismarck. Ce coup-ci va passer au WC, lardon. Je compte sur vous, Madame Marie.
Enlevez votre culotte. Faudra racheter du savon. Hein. L'eau savonneuse, ça n'a jamais été personne. Hein. Bon. Finissez-la, Fernande. Mon assistante va prendre la relève. Vous pouvez lui faire confiance. Elle est très compétente. J'ai du retard aujourd'hui. Voilà. Le plus dur est passé.
La cigale prend les métros.
Je suis pas entrée en résistante. J'étais résistante. Je suis née en 1912. Donc ma jeunesse et mon adolescence sont passées entre deux guerres. Et les deux sujets essentiels entre les deux guerres, c'était plus jamais la guerre, d'une part, et c'était l'antiracisme. Mon entrée en résistance, c'est le souci d'informer les gens. Quand on ne sait pas, on ne peut pas juger et on ne peut pas agir. Et c'est comme ça qu'on a créé Libération Sud avec Dastier de la Vigerie et Jean Cavaillès.
Le requin avale la truite. Il fait froid l'hiver.
Je suis dans l'armée et j'y resterai jusqu'à la fin de la guerre. Je suis la troupe alliée dans un camion. Quand je chante, je m'habille en robe de paillettes, car les soldats préfèrent cela. On me fait une sorte très tôt sur le camion où je chante sur des caisses de munitions vides, naturellement.
Vor der Kaserne, vor dem großen Tor, steht eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen wie ein. Lili Marlène, wie einst Lili Marlène.
Et non, vous n'êtes pas sur Radio Londres, mais toujours sur FPP. Et si nous avons passé ce petit extrait de différentes situations de femmes dans la guerre, en particulier en 39-45, c'est que nous recevons aujourd'hui en plateau Carole Mann. Bonsoir.
Bonsoir.
Donc, qui est historienne et qui vient de publier un livre qui s'appelle « Femmes dans la guerre 1914-1945 » et c'est publié aux éditions Pygmalion. Et alors, si vous faites un portrait de ces femmes dans les situations de guerre en 39 et en 45, c'est que la guerre a changé énormément de choses pour les femmes, que ce soit leur destinée. Elles sont devenues militaires pour certaines, espionnes, munitionnistes, résistantes. Elles ont travaillé dans les camps, elles ont continué à être mères de famille ou infirmières. Les choses ont changé, mais si ça a changé, il faut savoir aussi, il faut un peu apprendre à connaître ce qui était avant la situation des femmes, et en particulier avant 1914. Est-ce que vous pourriez nous faire un petit état des lieux de la situation en Europe pour ce qui est de la situation des femmes?
Tout ça en moins d'une heure.
Oh là là.
Non, mais en gros, non, je vais plutôt vous dire ce qu'il en était de la participation des femmes dans les guerres. Parce que c'est ça qui compte. Parce que dans les sociétés patriarcales, dominées par... par certains systèmes économiques dominants. Je me répète, c'était plus ou moins la même chose du début jusqu'à la fin. Enfin, je veux dire, puisque la société fondamentalement n'a pas changé énormément, ça n'a pas été très très différent jusqu'en 39. Mais enfin, pour revenir à la situation plutôt avant 14, on a complètement négligé la part des femmes dans la guerre parce que l'histoire, théoriquement, n'est faite que par des hommes et que par le récit militaire. Et c'est encore le cas. Regardez la façon dont la distribution urbaine, enfin la topographie des moindres villes, c'est surtout des noms d'hommes, de généraux,
même les plaques de souvenirs. Oui. C'est que des résistants FTP qui ont été tués. On ne retrouve pas tellement de femmes dans ces situations-là ?
En général, non. Mais puisque vous m'avez demandé ce qu'il en était avant, c'est encore plus le cas. Enfin bon, il y a des places Jeanne d'Arc. Et de temps en temps, il y a une plaque avec un nom de femme, si ça sert un discours nationaliste ou quelque chose dans ce genre-là. Alors là, on parle de femmes. Mais sinon, les femmes ont toujours été impliquées dans les guerres pour des raisons différentes. La guerre se passait autrement. Les soldats partaient en guerre, ils emmenaient parfois leur famille entière. Ça durait longtemps. Professionnellement, elles étaient cantinières, c'est-à-dire cantinières vivandières, genre mère courage dans la pièce de Brecht, celle qui va chercher l'alimentation. C'était des femmes qui faisaient ça. Et puis, la guerre générait une économie. Le pillage était quelque chose de très, très important. J'en parle dans toute la première section du livre, où je fais un aperçu général, où on parle au niveau socialement le plus haut des châtelaines qui accompagnaient leur mari à la guerre, ou sinon qui tenaient le château pendant qu'il était aux croisades ou ailleurs. Et c'est souvent des femmes qui géraient la défense d'un lieu plutôt que l'attaque dans ce cas-là. Il y a eu des cas absolument extraordinaires de... Enfin, extraordinaire. Pourquoi est-ce qu'ils sont extraordinaires ? Parce que, peut-être qu'ils le sont moins, c'est parce que toutes les vertus militaires de courage et ainsi de suite qu'on associe avec des hommes, en fait, c'était les femmes qui les portaient parce qu'elles étaient là. Par exemple, s'il y avait quelqu'un dans une famille qui était pris comme prisonnier pour une rançon, quelque chose comme ça, la femme devait se débrouiller pour trouver l'argent de la rançon, c'était pas rien. Et essayer de retrouver son mari, son père, son frère, et ainsi de suite. Donc, elles étaient extrêmement occupées. Bon, les infirmières n'étaient pas organisées encore en tant que corps professionnel, mais les femmes qui se trouvaient dans les armées, elles faisaient un peu de tout. Donc, s'occupant à la fois de l'alimentation, du bien-être, enfin de la santé militaire, enfin bon... C'était plutôt simplifié. Les amputations avaient lieu et puis on soignait tant bien que mal les blessés. Et donc, elles étaient là et elles accompagnaient en tant qu'épouses ou concubines de militaires. Il y a eu de nombreux cas de femmes qui ont élevé des familles entières parce que l'armée se déplaçait. Elles vivaient où elles pouvaient, elles se livraient à quelques batailles, elles continuaient, et ainsi de suite. C'est à partir de Louis XIV que l'armée devient professionnelle, donc qu'il y a des casernes et que les hommes sont séparés, enfin, en régiment masculin. Mais c'était beaucoup, beaucoup plus flou. Et j'ai également parlé de femmes qui se sont engagées dans les armées, parce que la vie des femmes, finalement, étant ce qu'elle était, elle offrait très peu d'opportunités. Donc il y avait des femmes qui suivaient les maris, mais il y avait des femmes qui laissaient tout pour rentrer dans l'armée. Certaines, il y a des femmes espagnoles qui sont parties en Amérique latine. Il fallait pas grand-chose parce qu'il n'y avait pas d'uniforme à l'époque. On achetait une épée, un uniforme qui ressemblait vaguement à celui que portaient les autres, un chapeau, ça y est, personne n'allait vérifier sous le juste au corps ce qui se passait au juste, de façon précise, sauf quand elles étaient blessées. Donc alors là, ça pouvait créer des problèmes, mais bon, elles continuaient, c'était pas la fin du monde. Donc, il semble que ça a été le cas assez longtemps des femmes dans l'armée, de telle façon qu'en Russie, pendant la Première Guerre mondiale, il y a eu des bataillons de femmes et personne n'a tiqué parce qu'on n'a pas trouvé ça extraordinaire. Parce que la division dans les sexes, dans ce type de travail, n'était pas aussi évidente. Donc, les femmes ont fait partie de tout ça. Elles étaient espionnes, elles étaient plus souvent qu'on pense militaires, cantinières et évidemment suiveuses de camp, comme on dit. Mais le monde n'était pas organisé autour de séparations aussi rigides.
Mais en 1914, il y a quand même un grand changement avec la conscription et le départ en masse de tous ces hommes, qui partent sur le front, et ça va durer très longtemps. Est-ce que les femmes ont participé d'un point de vue physique à la guerre ? C'est-à-dire, est-ce qu'elles ont été, par exemple, au front en 14-18 ?
La guerre avait été déjà assez régimentée à partir des guerres impériales, parce qu'on est quand même au milieu d'une époque au milieu des grands empires. Donc la guerre avait été totalement masculinisée, si vous voulez, dès le 19e. Il y a des changements dans, évidemment, en 14, où toutes les catégories deviennent de plus en plus rigides. Les femmes, on a beaucoup dit que les femmes se sont retrouvées dans les usines, mais les femmes travaillaient déjà.
Oui, mais elles ne faisaient pas tout à fait le même type de travail.
Voilà, la différence, non, c'est parce qu'on voudrait croire à un espèce de, je sais pas, paradis bourgeois où les femmes ne faisaient rien jusqu'en 14 et ensuite elles trouvent du travail dans les usines et c'est la révolution. C'est pas le cas. Celles qui travaillaient, les femmes ont toujours travaillé. La grande différence, c'est qu'elles se sont retrouvées dans la métallurgie lourde, dans les transports. Parce que les transports et toute la technologie, c'est partout pareil. Hein. C'est le domaine des hommes, parce que c'est un domaine de la liberté, de la circulation. Donc, elles se retrouvent conductrices de trams, de bus, d'ambulances. Et elles ont des boulots plutôt bien payés, comparés à ce qu'il y avait avant, dans l'industrie de guerre.
Oui, puisqu'elles deviennent munitionnistes, en fait.
Oui,
c'est elles aussi qui font les armes.
Oui, donc les munitionnettes, enfin, elles font toutes sortes d'aspects liés à la guerre moderne, à la technologie de la guerre moderne, c'est-à-dire remplir des obus de poudre et d'autres choses comme ça. Donc, elles travaillent dans la technologie de guerre de pointe.
Comme on parle du front et de ce qui se passe en 14-18, est-ce qu'il y a des femmes aussi qui font un travail plutôt d'espionne ou de la diplomatie parallèle en même temps?
Oui, bien sûr, il y a eu beaucoup de femmes espionnes. La plus célèbre était Mata Hari, évidemment. Mais bon, il y en a eu beaucoup d'autres qui probablement ont réussi beaucoup plus qu'elle parce qu'elle cafouillait un petit peu. Mais en général, les espionnes se recrutaient dans des pays où on parlait plusieurs langues, comme l'Europe centrale, la Belgique. Donc, avis à toutes celles qui nous écoutent de ces pays-là. Si on parle plusieurs langues, on est déjà... on a déjà des qualités de base. Et après ça, oui, bon, elles ont été espionnes... parce qu'elles avaient, celles qui avaient accès à beaucoup de milieux sociaux, souvent déclassés, donc elles avaient plus d'aisance, plus de mobilité.
Et puis il y a aussi toutes les femmes qui sont là pour soutenir les soldats, c'est-à-dire les infirmières et puis les marraines de guerre.
Oui, ça c'était une institution française, pour soutenir les soldats. Pour les faire rêver et ainsi de suite. À côté de ça, il y avait les bordels aux abords des camps qui faisaient de l'abattage. Mais à un niveau plus romantique, il y avait ces fameuses marraines de guerre, mais il y a eu des histoires d'amour véritables qui se sont créées comme ça. C'est français comme institution.
Et comment s'étaient organisées ces marraines de guerre? Comment on devenait marraine de guerre?
Il y avait des annonces dans les journaux. Et on répondait, et puis on commençait à correspondre, et envoyer des chaussettes et d'autres choses affriolantes du même type, aux soldats sur le front, suivis, j'espère, de tabac, d'alcool, mais ça c'est moins sûr. Donc les soldats en question venaient visiter les marraines pendant les permissions. Parfois c'était des mauvaises surprises, parce que c'était des dames plutôt revêches qui avaient besoin de rêver. Encore plus que les soldats, mais il y a eu des histoires qui se sont conclues de façon plutôt sympathique.
Et puisqu'on là, on parle aussi des femmes qui sont à l'arrière du front, est-ce que la guerre 1914-1918 a changé les choses pour elles sur le quotidien, sur leur façon de s'habiller, de vivre, en étant avec leur mari très loin, loin de là?
Mais elles ont eu plus de responsabilités. C'est qu'elles ont dû prendre beaucoup de choses en charge. Mais d'une certaine façon, c'était déjà le cas avant la guerre, avec l'urbanisation massive. Ce qui se passait, les hommes allaient à la ville pour trouver du travail. Et les femmes restaient dans les campagnes à gérer les moissons, les animaux et tout le reste. Donc il ne faut pas surestimer les changements dans ce sens-là. Mais les changements ont été peut-être d'une autre nature. Pour la première fois, l'État a reconnu le sacrifice des familles. Et il y a eu des allocations familiales très appréciées des familles rurales. Une des différences, certes, les hommes partaient dans les villes à cause du travail, mais restaient des hommes jeunes pour tout ce qui était récolte et ainsi de suite. Là, il n'y avait vraiment plus personne. et les animaux étaient réquisitionnés aussi. Donc ça, ça posait des problèmes aux femmes dans les campagnes. Pour les femmes en ville, bon, elles devaient se débrouiller avec des restrictions certaines, un certain rationnement et tout ce qu'on verra amplifié dans la Seconde Guerre mondiale. Vous avez parlé de mode, oui, ben chaque fois, et c'est encore le cas aujourd'hui, quand on est dans une période qui militariste, les modes sont toujours plus militaires. À l'époque de la guerre de 14, il y avait un aspect pratique, parce que les femmes qui partaient, les volontaires qui allaient dans les ambulances et aller sur le front, elle se faisait faire des costumes ravissants chez Lanvin et ainsi de suite, mais avec des jupes beaucoup plus courtes, parce qu'il faut voir la mode juste avant la guerre, que Poiret d'ailleurs avait déjà changé puisqu'il avait essayé d'éliminer le corset. C'était pas difficile parce que son épouse Martine était mince et plutôt sportive, donc ça posait pas de problème énorme, mais pour des femmes bourgeoises qui avaient bougé de leur vie, ça posait un autre type de problème. Enfin bon, toujours est-il, la guerre de 14 arrive, il faut des vêtements plus confortables pour bouger et des espèces de costumes avec des jupes plus courtes, on s'étale plus, avec des bottes, genre, pour eux, à l'époque, c'est des bottes plutôt militaires, c'est-à-dire des bottes en cuir, avec des talons plus solides et des vestes avec des grandes poches. Et ça, c'est resté. Il y a le texte que je cite de Colette.
Qui est assez étonnant, ce texte.
Oui, étonnant, parce qu'en général, elle est plus féministe que ça, mais bon, j'ai cité quelques textes d'elle où, bon, le militaire revient, il voit sa femme en vêtements coquets, etc. Enfin, mais en uniforme militaire version féminine et donc assez coquette. Donc, oui, c'était parce que c'était plus pratique, d'une part. Il y avait des économies de tissu, parce que les falbalas de la mode précédente et tout ça, c'était simplement trop cher parce que le rationnement, ou plutôt la réquisition massive de toutes les matières premières, et ça comprend les textiles et les moutons avec lesquels on fait de la laine et ainsi de suite, donc ça va loin, font de sorte que les robes doivent devenir plus étroites, il faut moins de tissu et ainsi de suite.
Ce que raconte Colette aussi, c'est la réaction du mari qui est complètement désarçonné par cette femme qui semble un peu trop masculinisée.
Oui, bien sûr. Parce que quand on regarde, je ne sais pas si vous avez vu toutes ces cartes postales, parce que la Première Guerre mondiale a créé une industrie massive de cartes postales avec des femmes en tenue vaporeuse, en train de... oui, on voit en médaillon le poilu, etc., auquel elle rêve. Donc il y a toute cette mythologie de la femme, donc en tenue vaporeuse, bien entendu... espèce de fée ou de présence éthérée, en tout cas, qui ne correspond en rien à la réalité. Parce qu'en plus de tout ça, bon, pour revenir aux tenues éthérées, puisque le charbon était rationné les hivers très froids, il y avait de quoi crever de froid, donc il fallait s'habiller autrement.
Et justement, puisqu'on parlait de femmes avec des tenues éthérées et des différences avec l'image du poilu, est-ce que la guerre a changé quelque chose au niveau des pratiques de la sexualité, en fait ?
Finalement, je ne sais pas. Qu'est-ce qu'on peut dire par rapport aux pratiques ? Les gens sont revenus dans leur foyer. Les hommes sont revenus dans leur foyer. Ils ont retrouvé leur femme. Est-ce que je ne sais pas ce que vous voulez vraiment dire par là. Le taux de divorce, évidemment, après les guerres, est toujours important. Je crois que ces changements de comportement sexuel, ça fait partie du fantasme masculin qui est, parce que partout les hommes, et la même chose s'est passée pendant la Seconde Guerre mondiale, les hommes s'imaginaient que dès qu'ils avaient le dos tourné, les femmes allaient sauter sur tout ce qui passait. Il ne passait pas grand chose puisqu'ils étaient tous à la guerre de toute façon, sauf évidemment en 1939 où la France a brillé par la collaboration, donc il y avait plus d'hommes, mais ça on y viendra peut-être après. Mais enfin, toujours est-il, donc les changements de comportement sexuel, je crois, in fine, n'étaient pas tellement extraordinaires que ça, puisque les femmes étaient surtout occupées à essayer de survivre. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que les femmes étaient insérées dans le tissu familial. Et ça, c'est une des grandes différences avec maintenant, dans la société patriarcale où la famille domine. C'est pourquoi j'ai dit que ça n'a pas vraiment changé jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Les priorités des femmes étaient vraiment autour de la famille. Ça, c'est ce qui m'avait frappée. Bon, j'anticipe, mais en ce qui concerne la résistance, j'ai entendu un extrait, je sais pas si c'était pas Lucie Aubrac.
Oui, exactement, oui, c'était Lucie Aubrac. Tout à l'heure.
Lucie Aubrac, comme beaucoup de parcours de résistantes que j'ai regardé de près, bah, c'était toutes mariées à 19 ans, à 20 ans, elles avaient des enfants. Donc, elles n'avaient pas le temps d'être jeunes, libres, tout ce qu'on veut, ou expérimentées sexuellement particulièrement. Donc, dès qu'on a un enfant, bien féministe ou non, je vous le signale, on s'occupe de cet enfant et ça devient la première priorité, surtout en pleine guerre. Et Lucie Aubrac ne cesse de culpabiliser, en fait, quand on regarde de près son discours, elle a vraiment culpabilisé en laissant son enfant auprès d'inconnus. Elle a deux enfants. Et plus d'une fois, elle a dit ce que j'ai fait. Ailleurs, elle a dit, elle l'a fait en tant que mère, hein. Et ça, c'est une motivation énorme. Et parce que ces femmes-là n'ont pas voulu imaginer une France occupée, une France de guerre pour leurs enfants.
Justement, après la guerre, après l'armistice de 18, énormément de femmes se sont engagées dans le mouvement pacifiste en disant plus jamais ça, je ne veux pas laisser un monde comme ça à mes enfants. Est-ce que vous pourriez nous raconter un peu ces mouvements-là ?
Oui, il y a eu des... Bon, j'ai pas particulièrement travaillé là-dessus, mais je peux vous dire que beaucoup de femmes se sont engagées. Elles étaient également engagées dans des mouvements politiques. Et des mouvements politiques importants de gauche et d'extrême gauche. Alors, c'était pas Bon, il y a eu les mouvements pacifistes, mais il y a eu l'engagement politique qui était très important. Mais ce qu'elles avaient contre elles, c'était les médias. Et la société en général. Bon, personne ne voulait de guerre, mais tout le monde voulait de la chair à canon. Et leur lutte s'est placée contre cet impératif de continuer à fabriquer des enfants coûte que coûte.
Et quand vous parlez des médias, comment se fait-il que ces médias étaient contre le pacifisme ?
Non, c'était pas. Si vous voulez, le discours était ambigu parce que. C'était pas du pacifisme dans l'absolu, parce qu'il faut voir le contexte. D'une part, bon, la France a théoriquement gagné, mais en même temps, les médias disent d'une certaine façon qu'à cause des pertes énormes, parce que les pertes étaient absolument épouvantables, ils n'ont cessé de dire que finalement les Allemands étaient plus forts parce qu'ils avaient. Parce qu'eux, au moins, n'avaient pas peur de faire des bébés. Vous voyez, donc il y a eu tout ce discours-là. Je ne crois pas qu'on puisse parler de pacifisme sans tout ce discours, ce discours nataliste extrêmement fort à l'arrière. Donc c'était pas qu'ils étaient pour la guerre, mais ils ont fait le bilan de ce qu'a été l'échec de la France. Et on a cessé d'accuser les femmes, en fait. La France a peut-être gagné sur papier le traité de Versailles, si on peut dire, mais... Autrement, toutes les pertes énormes ont été mises sur le dos de ce qu'on a dit, appelé l'égoïsme des femmes. C'est épouvantable, mais je dois citer ça parfois.
Il est parti mourir, la tête dans le vent. Comment par un sourire entre les dents. Les femmes ça part pas, ça meurt à petit feu. Une femme ça reste et ça pleure pour deux. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon amour inconnu. Les honneurs à la noix, et quand la mort s'est tue, il a reçu sa croix, mais moi je n'ai rien eu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurais pas ma statue. Je n'étais que la femme du sein d'inconnu. Ils sont là chaque année, à son bon souvenir. Moi pendant des années, je n'ai rien vu venir. Pourtant on meurt aussi, même quand la vie dure. On meurt même au milieu des pots de confiture. Je l'ai faite ma guerre, mais entre quatre murs. C'était une autre guerre avec une autre armure. Je l'ai fait traverser des landaux à toute heure. Y'a pas que les fusils qui déchirent le cœur. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Une guerre à donner, la vie que de la prendre. Une guerre où la mort ne veut jamais se rendre. Moi aussi je l'ai faite, et même en souriant. Et c'était pas la fête, tout le temps. Il fallait qu'il s'en aille, il est pas revenu. Il a eu sa médaille, mon soldat inconnu. Déshonneur à la noire, et quand la mort m'a prise, je n'ai eu que l'honneur de la femme soumise. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam, j'aurai pas ma statue. Je n'étais que la femme du soldat inconnu. Ad vitam aeternam.
Toujours dans les oreilles loin du front sur Fréquence Paris Pluriel 106.3 et on est en compagnie de Carole Mann pour parler des femmes dans la guerre, donc de 1914 à 1945, et on parlait juste avant la pause musicale du pacifisme juste après la guerre de 14-18, mais en fait, est-ce qu'il y a eu des mouvements pacifistes pendant la guerre de 14-18 et quelle part ont pris les femmes en fait dans ces mouvements-là?
En fait, pour moi, c'est plus intéressant l'opposition qu'il y a eu à la Première Guerre mondiale pendant la guerre, parce que les femmes prenaient vraiment des risques à ce moment-là. Être contre la guerre juste après une guerre, bon, évidemment, c'est louable, mais ça se comprend beaucoup plus. Aux États-Unis, il y a eu quelqu'un d'extraordinaire qui s'appelait Jane Addams, qui a été à l'initiative d'un mouvement de la paix extraordinaire. Et avec d'autres femmes, et la France a brillé par son absence, elle a créé un congrès, enfin oui, le congrès des femmes à La Haye en 1915. Et puis, bon, dans mon livre, je traduis, je crois que c'est la première fois qu'on a le texte en français. Ces femmes qui avaient des propositions extraordinaires pour bannir la guerre de toute la société. Et ça, c'est vraiment important. On n'en parle pas assez, mais les femmes étaient... Je refuse de penser que les femmes sont... Tout cet argument de biologie, que les femmes sont naturellement plus pacifistes que les autres. Mais il se trouve que ce sont... les femmes qui élèvent les enfants et qui ont la responsabilité des familles, du moins dans les sociétés patriarcales traditionnelles. Donc, elles se retrouvent à être plus pacifistes. Aujourd'hui, évidemment, ce serait peut-être tout à fait autre chose. Mais ces pacifistes remarquables, elles ont essayé de faire ce qu'elles pouvaient parce qu'elles voulaient empêcher l'entrée en guerre des États-Unis. Mais malgré tout ça, pour diverses raisons, les Américains sont arrivés plutôt vers la fin et ils ont donc participé à la Première Guerre mondiale.
Et est-ce que ces mouvements pacifistes ont été liés à des mouvements politiques clairs ou est-ce que c'était un peu en marge de...
Certains oui, certains non. Je veux dire, Rosa Luxembourg, par exemple, voyait la guerre comme un produit du capitalisme, et ainsi de suite. Quelque part, elles disent la même chose. Je vais trouver le texte, mais quelque part, elles disent également que la guerre fait marcher l'industrie de la guerre, et donc c'est à ça qu'il faut s'opposer. Donc sensiblement, c'est la même chose. Attendez. Exemple, le Congrès international des femmes recommande le désarmement universel rendu possible uniquement par un accord international qui doit permettre à chaque nation de contrôler directement la fabrication et le trafic d'armes et de munitions. Le Congrès estime qu'un des freins majeurs pour l'interdiction de la guerre, ce sont les profits personnels des usines d'armement. Et enfin, Rosa Luxembourg dit pas autre chose, Clara Zetkin non plus. Mais ce qu'elles ajoutent en plus, c'est que bon, il y a une éducation à la paix et qui pourrait être possible, et ainsi de suite. Mais inutile de préciser, elles n'ont pas été écoutées. Et au contraire, ce type de discours était assez dangereux. Je veux dire par là, il faut voir ce qui s'est passé avec le mouvement féministe en Angleterre, la famille Pankhurst, la célèbre Madame Pankhurst, etc. Toutes ces femmes qui se sont battues pour le droit de vote.
Les suffragettes, comme on
dit. Oui, les suffragettes qui se sont battues. Mais la plus jeune sœur Pankhurst, Sylvia Pankhurst, était antimilitaire. Parce que les suffragettes, ce qu'elles ont fait au départ, elles étaient contre la guerre. Mais voyant une possibilité d'intégrer la société au même titre que les hommes, elles sont devenues absolument féroces et de façon très féroce, pro-guerre. Ça, il faut le savoir, ces suffragettes étaient d'un nationalisme et d'un militarisme épouvantable. Sauf Sylvia, qui, elle, était contre, mais était extraordinairement mal vue. Les gens qui refusaient d'aller à la guerre et les femmes qui encourageaient, c'était la trahison. Donc toutes ces femmes-là qui ont été contre la guerre ont pris des risques absolument énormes.
Et d'ailleurs, comme on parle des suffragettes... Les femmes ont obtenu le droit de vote, en tout cas en Grande-Bretagne et au Canada, après la guerre 14-18. Donc c'est d'une certaine façon, il y a une certaine reconnaissance de leur engagement au niveau de la citoyenneté.
Oui, elles ont... oui absolument. Oui.
Et alors là, comme on est après la Deuxième Guerre mondiale...
La première.
Oulala, excusez-moi.
Les guerres.
Il se trouve qu'en Allemagne, on arrive à la montée du nazisme. Et là, les femmes sont exploitées d'une autre façon, puisque vous intitulez un de vos chapitres, qui est l'entre-deux-guerres, l'utérus nationalisé. Donc il y a vraiment le corps même de la femme qui va être utilisé dans la propagande nazie et son pouvoir reproductif, en tout cas pour les aryennes.
Oui, absolument. Mais il ne faut pas rêver, la France aussi. Hein, dans les années 20, le discours français est absolument aberrant. Mais finalement, ce n'est pas étonnant, c'est à monter de l'extrême droite partout et des régimes totalitaires. Je crois que tout le monde avait compris que le traité de Versailles était loin d'être concluant et qu'ils allaient vers un autre conflit mondial. Et bon, ils n'allaient pas fabriquer des soldats à toute vitesse non plus, mais l'importance... des armées, l'importance numérique des armées pour chacun constitue un argument de force, un peu comme des armes nucléaires aujourd'hui, je suppose. Mais donc, on a voulu obliger les femmes à produire un maximum d'enfants. Et en France, par exemple, bon, en Allemagne, il y a plus forte raison, la contraception, tout ce qui ressemblait à la contraception, de loin ou de près, était absolument interdit. En Allemagne nazie, évidemment, c'est devenu une politique d'État absolument rigoureuse.
Ce qui est un peu différent, puisqu'il y a aussi de l'eugénisme. C'est à la fois une politique où on a forcé les gens à avoir des enfants et en même temps, on a forcé d'autres à être avortés et à être...
Oui, mais l'eugénisme, il faut le dire, hein, c'est pas une invention allemande. Il en était... c'était partout comme ça. Même Mary Stopes, vous connaissez les cliniques Mary Stopes, elle était pionnière de la contraception. Elle était très pro-eugéniste. Il paraît que son fils voulait se marier avec une fille très myope. Mais aussi très myope, évidemment, je me souviens de détails de ce genre-là. Elle a voulu empêcher le mariage parce qu'elle était terrorisée. Cette pionnière de la contraception, mais enfin, très très connue, parce qu'elle ne voulait pas de petits-enfants myopes, autrement dit tarés. Bon, mais enfin, ce genre de choses-là. Donc c'est très ambigu, en fait, cette histoire d'eugénisme. Même les pays progressistes, relativement progressistes, la Scandinavie était pro-eugéniste. Non, mais les nazis sont allés plus loin dans la mesure où ce n'était pas uniquement au niveau des conseils, c'est devenu l'avortement obligatoire. Donc, en fait, je me souviens plus des chiffres, mais je crois que jusqu'à 40 000 enfants ont été avortés.
L'avortement obligatoire pour qui exactement?
Alors, pour les enfants qui naissaient sourds, muets, aveugles, apparemment tarés, enfin... Et jusqu'à l'âge de 5 ans, s'ils présentaient des défauts de fabrication, pour ainsi dire, ils pouvaient être tués. Alors, ce qui est absolument terrifiant, c'est que les mêmes médecins qui ont officié là-dedans, enfin, ils sont devenus des spécialistes de l'assassinat, plus ou moins en masse, de petits-enfants et d'indiquois. On a également tué des vieux pour les mêmes raisons. Bon, tout ça s'arrête en 1943. parce qu'il y a tellement de protestations en Allemagne. Et à partir de 1943, la dernière phase de la solution finale se met en place. Et les mêmes médecins qui avaient donc tué ces enfants commencent à expérimenter dans les camps de concentration sur d'autres enfants. Ils ont été vraiment entraînés. Il y a une continuité absolument diabolique là-dedans.
On tue des enfants et avant la Deuxième Guerre mondiale en Allemagne, on pousse aussi les femmes ariennes à faire des enfants.
Oui, donc qu'est-ce que c'est arien déjà ? Les femmes répondant à des critères d'un idéal racial, dit arien. Bon, parce qu'on peut pas dire femme arienne, parce que ça ne veut rien dire. Hein. Ça n'existe pas. Sauf dans l'imaginaire afghan et iranien, mais ça c'est une autre histoire. On pousse les femmes agréées racialement à produire des enfants. Pour revenir à Ariane, si c'est blond aux yeux bleus, on élimine la moitié du sud de l'Allemagne, parce que je sais pas, les gens en Bavière ont des cheveux foncés.
Rien qu'Hitler. Hein.
Rien qu'Hitler. Bon, donc c'était pas un exemple publicitaire extraordinaire. Mais Hitler, il a vraiment... C'était toute cette propagande de faire un enfant pour Hitler. C'était vraiment le terme employé. Les jeunes filles pas mariées, on est dans une société catholique, hein, sont incitées à avoir des enfants. Il y a toutes ces jeunesses hitlériennes et tout ça. Et les parents ont assez mal réagi parce qu'ils étaient encore très, très pratiquants. Ils voyaient bien que c'était la pagaille sociale totale. Et en fait, l'État monte la jeune génération contre celle des parents pour avec l'excuse plutôt douteuse d'une liberté sexuelle, mais une liberté ou plutôt une obligation de se reproduire. Il y avait toutes sortes d'avantages. La jeune fille enceinte pouvait se faire appeler madame et d'autres privilèges du même genre. Et donc, il y a une obligation, une incitation de la part de la des politiciens, enfin d'autres exemples. Une femme à partir de 40 ans était à mettre au rancard parce que n'importe qui pouvait se remarier pour faire des enfants avec quelqu'un de plus jeune. Donc les officiels du Reich ne se sont pas gênés. Donc beaucoup de femmes ont été... ont été lourdées de la sorte. Alors moi, j'ai regardé la presse féminine de près, et c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup, et j'ai regardé la presse féminine de l'époque nazie. Et les pubs sont étonnantes. Il y a plein de produits de rajeunissement, parce qu'évidemment, les femmes, elles voyaient la quarantaine arriver.
Et pour teindre les cheveux en blond aussi.
Cheveux en blond, et puis le langage est formidable. Retrouvez votre blondeur naturelle.
Car tous les petits Allemands étaient blonds
bien
à la
sûr.
Naissance.
Donc si on a les cheveux noirs, en fait, on est un blond qui ne se connaît pas. Enfin, vous voyez. Donc, mais c'est le sens des pubs. C'est comment est-ce qu'on construit ce message de race ? Je prends les exemples les plus caricaturaux. Et donc, on essaie de pousser les femmes à avoir beaucoup d'enfants. Bon, ça n'a pas vraiment réussi. Parce que, en fait, en dépit de certaines allocations familiales et des aides et des photos des moutes resplendissantes, enfin, apparemment resplendissantes, entourées de leurs 6 gosses, habillées en costume folklorique, le peuple n'y croit pas parce qu'ils étaient quand même en crise. Et ils sortaient de la Seconde Guerre mondiale.
De
la Première Guerre mondiale. Et des sommes absolument massives versées à la France au nom du traité de Versailles. Donc ils étaient complètement financièrement épuisés. C'est pourquoi Hitler est arrivé au pouvoir. Ce ne sont pas ses promesses qui, du jour au lendemain, ont transformé le peuple allemand en peuple de reproducteurs d'une élite imaginaire. Et de plus, beaucoup plus d'énergie et de moyens est allé dans l'anéantissement de ceux qu'on ne voulait pas. Parce que c'est une politique en miroir, c'est le recto verso d'une même politique. On incite les soi-disant ariens à se reproduire, mais on veut absolument tuer jusqu'au dernier le peuple honni, et en premier lieu les juifs. Et beaucoup plus d'énergie, de moyens sont déployés dans ce sens-là.
Donc d'un point de vue rentabilité, en tout cas pour la guerre, ce n'est pas forcément tout à fait cohérent comme politique. Si on en tue une grande partie et qu'on tente d'en reproduire d'autres, sachant que la reproduction est plus lente que que tuer des gens, c'est un peu aberrant comme politique.
Vous auriez dû conseiller Hitler, si vous avez vécu c'est à sûr. L'époque.
Non, mais bien sûr, c'est, rien n'est logique dans cette histoire. C'est ça, ce fanatisme, c'est ça la folie, finalement.
Et en 39-45, quand la guerre a été déclenchée entre l'Allemagne nazie et le reste de l'Europe, comment ces jeunes filles élevées dans les jeunesses hitlériennes ont pris part à cette guerre ?
Bien, l'Allemagne, donc, voulant... ayant des principes traditionnalistes du rôle de la mère, hein, la cuisine, les enfants et l'église, Kinderküche, peut-être l'église un peu moins que le reste, ne voulait pas que les femmes participent à l'armée. Donc, ne voulait même pas que les femmes participent aux usines de munitions, ce qui rendait Speer complètement fou, parce qu'à la fin de la guerre, il avait compris qu'ils étaient en train de perdre, et que les hommes qu'on mobilisait dans les usines d'armement étaient ceux qu'on n'envoyait pas sur le front. Donc, évidemment, les camps de concentration fournissaient une main-d'œuvre d'esclaves gratuite, qui se retrouvaient dans ces usines. Mais dans tout ce qui était le quotidien, pas le quotidien, mais enfin, l'usine, l'industrialisation de la guerre, c'était les hommes qui étaient là et pas les femmes. Donc, évidemment, il y a eu des femmes qui se sont retrouvées dans la guerre en tant qu'infirmières, en tant que gardiennes de camp, et j'en parle. Donc, oui. Il y en a eu, elles étaient épouvantables.
Oui, parce que, évidemment, dans les camps de concentration, c'était les femmes qui gardaient d'autres femmes.
Oui, mais il y avait des femmes qui également... à Auschwitz, il y avait des femmes qui s'amusaient à des jeux extraordinairement sadiques contre des hommes aussi. Mais en général, c'était des femmes qui gardaient des femmes, et surtout les groupes de femmes qui sortaient au travail, et ainsi de suite.
Et la situation était-elle très différente en France, par exemple ?
Bon, d'abord la France était quand même occupée par l'Allemagne. C'est-à-dire que la femme était la colonie nazie la mieux organisée, celle qui marchait vraiment au pas. Hein. Donc les femmes dans la collaboration, le message de Vichy était pareil, on voulait pas trop de femmes dans les administrations et ainsi de suite. Je sais, dans un journal, j'ai trouvé un article sur celle qui officie au mariage à la mairie de Vichy. Bon, un article sur cette dame, on dit voilà, une vraie femme de Vichy, elle a 8 gosses.
Vous lui avez remis une médaille, je crois, c'était
oui,
ça
oui,
dans
oui,
le.
Oui, elle était bardée de médailles, évidemment, puisqu'elle était méritante, naturellement, pour ainsi dire. Donc, ce sont plutôt les femmes dans la résistance et les femmes qui sont engagées chez De Gaulle. Et ensuite, mais De Gaulle se méfiait des femmes. Hein.
Quel était le rôle des femmes ? Quel était le rôle attribué aux femmes dans la résistance, par exemple ?
Elles faisaient un peu tout, mais.
Qu'elles prenaient les armes ?
Pas directement, mais je crois qu'elles ont dû faire ça. Mais en fait, la réelle résistance, c'était pas le fait de prendre des armes, et elles l'ont souvent dit, c'est la résistance du quotidien. Il y a quelqu'un qui a dit il faut beaucoup plus de courage, finalement, pour balancer un paquet de grenades ou un paquet de tracts au-dessus d'un pont ou dans une fac, parfois que de lancer une bombe au loin. Et ces femmes qui passaient avec les landaus où il y avait toutes les armes en dessous. En fait, quand on regarde, la résistance a été le fait de femmes. Parce que c'est elles qui sont occupées des hommes, des résistants, qui les ont planqués, qui les ont nourris, qui les ont soignés, qui se sont occupées de toutes sortes de choses qui n'étaient pas du tout accessoires, mais essentielles à la guerre.
Et vous dites justement que les femmes étaient, lorsqu'elles étaient arrêtées, elles étaient encore plus maltraitées que les hommes, puisque généralement on savait que si on trouvait une femme, on avait le droit à tout le réseau finalement.
Oui, parce que évidemment la femme était fille d'eux, sœur d'eux, femme d'eux. Parce qu'avec la structure sociale, j'en ai parlé tout à l'heure, la structure sociale de l'époque et son implication active dans les familles, ça menait toujours à des réseaux, même si elles avaient des faux papiers. Donc l'angoisse là-dedans était absolument décuplée. Celles qui étaient un peu plus libres et qui prenaient le plus de risques, c'était souvent des jeunes femmes juives dont la famille avait été déportée. Elles sentaient qu'elles n'avaient plus rien à perdre, alors elles y allaient. Et c'est vraiment la résistance des jeunes juives a été absolument spectaculaire, justement. Et c'était des filles très très jeunes, hein, des lycéennes. J'ai quelque part là-dedans ce poème remarquable de cette jeune femme qui a été horriblement tuée, qui faisait passer des enfants juifs en Suisse. Donc la résistance de ces femmes-là qui n'avaient plus rien à perdre était encore plus violente.
Et quand on parle de la guerre, il y a aussi toutes les femmes qui sont à l'arrière. Quelle est la stratégie du quotidien? Puisque on sait qu'en France, il y a quand même il y a le rationnement, il y a les hommes qui peuvent être en camp ou au STO. Comment elles font pour survivre?
Il y a les rationnements, ça dépend qui on est. Il y a les rations, on se débrouille, mais il faut bien savoir. Et dans mon livre, j'ai vraiment pas voulu me concentrer sur la France parce qu'on parle beaucoup de France. Et j'ai voulu parler. J'ai la chance, je parle beaucoup de langues, donc j'ai pu accéder à beaucoup d'archives. Mais la vie d'une femme en France ou en Belgique n'a rien à voir avec sa consœur à Leningrad. Ou à Varsovie.
Oui, parce que justement, il faut raconter, par exemple, le siège de Leningrad ou la situation dans le ghetto de Varsovie, c'est quand même l'horreur absolue par rapport à la situation.
Absolue. Je veux dire que, évidemment, chaque personne, dans tous les témoignages, chacun imagine qu'il a passé la pire guerre possible. C'est toujours comme ça. Et moi, je me souviens d'avoir entendu l'histoire de quelqu'un qui était revenu de Auschwitz. Il avait 16 ans à l'époque. Il m'a raconté qu'il pesait 30 kilos. Il arrive chez lui, il n'arrive pas à parler. Et puis, sa tante qui avait survécu lui dit « Oh, Charles, si tu savais tout ce qu'on a enduré. » Et après ça, il n'a pas pu parler. Il n'a pas parlé pendant 50 ans. Hein. Et il avait vu le pire. Et donc, mais pour revenir à ce qu'on disait, bon, toutes les femmes se débrouillaient avec ce qu'elles trouvaient. Mais en France, il y avait des tickets de rationnement et il y avait ce qu'ils appelaient le système D, quoi, la débrouille, la démerde, quoi. Mais à Leningrad, on faisait durer un lacet de chaussures ou bouillir un petit bout de cuir. Les gens crevaient de faim de façon absolument incroyable, hein. Et il y a quelques documents là-dessus. C'est absolument bouleversant. On raconte des histoires que je ne sais pas ce qu'ils trouvaient comme protéines dans la colle des papiers peints. Derrière les papiers peints, on grattait ça parce qu'il n'y avait pas de ration. Il y avait un tout petit peu de pain et quand il n'y en avait plus, il n'y en avait plus.
Même dans la presse féminine anglaise, on voit des conseils, par exemple, où une fois qu'on a mangé, il faut mettre les couteaux dans de l'eau pour récupérer le gras.
Ah oui, oui, oui. Et en France aussi, c'est incroyable comment on récupère le gras. Et puis, on garde toutes les miettes et tous les conseils pratiques. Mais en Angleterre, c'est devenu l'objet d'un culte. Hein. Il y a le National War Museum. Il y a des copies de coupons, des livres de cuisine. C'était l'époque héroïque pour les Anglais. Bon, et enfin, ça sert à fabriquer un discours national et unificateur dans un pays qui tombe en miettes depuis des décennies. Je connais bien puisque j'étais élevée là-bas. Bon, j'ai bien placé pour le dire. Mais donc il y a plein de conseils de ce genre-là. Oui, comment garder la graisse? Alors pourquoi tous ces conseils? Pour plusieurs raisons. C'est la continuation de ce qui s'était déjà passé, c'est-à-dire que les jeunes générations de femmes vivaient sans les aïeuls, parce que tous les conseils pratiques, ils n'en avaient pas, puisque les familles, les personnes plus âgées qui venaient de la campagne, étaient à la campagne, ils ne pouvaient pas leur donner ça. J'ai vu la même chose pendant le siège de Sarajevo, parce que, par ailleurs, bon, je suis historienne et sociologue, mais j'ai toujours une activité... De militantes, enfin bon, j'ai créé des associations et je me suis occupée de la reconstruction d'une école à Sarajevo. Et puis bon, maintenant, depuis 10 ans, je suis en Afghanistan. Enfin, pas tout le temps, hein. Pendant que d'autres vont en vacances, moi je vais en Afghanistan. Mais ce que j'ai vu, et c'est en fait ce livre, beaucoup de choses j'ai compris parce que j'ai vu la guerre en direct. Hein. Je veux dire, à Sarajevo, j'y étais pendant que les obus tombaient, j'étais dans un quartier, la banlieue de Sarajevo, littéralement sur le front. et des façons de faire, des, parce que les grands-mères, les familles se regroupaient. Bon, évidemment, au début de la guerre, les congélos ne marchaient plus. Et puis, j'ai vu ça. Et puis, les mamies sont venues et elles ont expliqué à tout le monde comment on fait des salaisons. Puis je sais, celle qui est Azra, qui est devenue une de mes meilleures amies au monde, elle m'a raconté ça parce que sa mère est venue habiter avec elle. Et puis, les personnes âgées, les conserves, les salaisons, les choses comme ça qu'on ne savait plus faire. Elles ont retrouvé tous ces systèmes de préserver la nourriture, sécher des choses. Personne ne savait faire, des gens de ma génération, de la vôtre, évidemment, on ne sait pas faire. Et à Paris, pendant la guerre, parce que c'était une grande ville, et puis peut-être les aïeuls étaient loin et tout le reste, et toutes les restrictions, les femmes avaient besoin de la presse populaire. C'était déjà comme ça à l'entre-deux-guerres. C'est pourquoi, quand j'ai parlé des médias avant, je parle de cette presse féminine absolument exponentielle qui remplace les générations antérieures. Et c'est important, tout ça. Donc, elles apprennent à se débrouiller, bon, à force de conseils entre elles et ainsi de suite, et avec les médias. Mais évidemment, à Varsovie, à Leningrad, il n'y avait rien de tout ça. En Europe de l'Est, où là, vraiment, il y a encore beaucoup de travail à faire. La situation était tellement horrible qu'il n'y avait rien de tel.
Quand on parle de situation extrême, on ne peut pas parler de la situation dans les camps de concentration. Et comment les femmes faisaient pour survivre? Et est-ce qu'il y a une spécificité dans les stratégies de survie entre les hommes et les femmes?
Oui, je crois que oui. Dans ce livre, c'est la première fois qu'en France, qu'on regarde la spécificité féminine de la survie des femmes durant la Shoah. D'abord, il y a eu plus de victimes féminines que masculines, pour de nombreuses raisons. Une d'entre elles, c'est qu'on ne pensait jamais que les femmes et les enfants allaient être déportés. Et les femmes s'occupaient à faire partir les hommes. Et comme dans tous les cas, les femmes sont l'interface, surtout dans les migrations partout, hein, ce sont les femmes qui sont l'interface entre la société et la famille, parce que, dans les sociétés traditionnelles, les hommes partaient à l'usine et ainsi de suite. Si les femmes travaillaient, c'était aussi elles qui s'occupaient du proprio, de payer le loyer, l'école, et ainsi de suite. Et souvent, c'est pourquoi elle parlait français, polonais, ça les a permis de survivre dans beaucoup de cas, parce que les hommes juifs ne parlaient pas aussi bien les langues du pays, ils parlaient yiddish ou hébreu, mais ça restait, ils restaient entre eux. Alors, pour revenir à ça, donc les femmes sont plus équipées pour survivre parce qu'elles ont pratiqué la société au quotidien. Elles ont fait de sorte qu'un maximum d'hommes partent et ce sont elles qui se sont retrouvées à s'occuper des parents, des enfants. Et elles étaient prises comme ça et c'est comme ça qu'elles ont été déportées en masse. Alors ce qui se passe dans les camps, c'est que dans les camps des familles, et Germaine Tillon en parle aussi pour Ravensbrück et dans d'autres endroits, des groupes se sont créés, des unités un peu familiales. Les femmes ont materné, même si on avait 3-4 ans de plus, parce qu'on tuait tout de suite des femmes un peu plus âgées et qui paraissaient ineptes au travail d'esclaves qui était demandé à celles qu'on gardait en vie momentanément. Donc elles recréaient des unités familiales. Et une sociabilité féminine les aidait à continuer. Par exemple, l'histoire, j'en parle des livres de cuisine. Bon, j'ai
se refait des.
Ouais. Elle s'imaginait.
Des festins.
Oui. Ah oui, elle se faisait. Non, mais quel est le terme que j'ai entendu? C'est la cuisine par la bouche. Elle se donnait des recettes. Dans un des camps, mais évidemment, ce n'était pas les camps les plus extrêmes, où quelqu'un c'est à Térésine, un livre de cuisine a survécu, je l'ai vu. Et les recettes sont de la cuisine de Bohème et d'Autriche d'époque, mais avec des quantités extraordinaires, du genre mets autant de crème que tu peux, ajoute du caviar, enfin bon, on en rajoute, c'est parce que c'est de la cuisine pour rêver. Alors que dans Pour elle et Marie-Claire, c'était vraiment des recettes, quoi faire avec 2-3 tranches de pain.
Oh, der Kaserne. eine Laterne und steht sie noch davor. Dort wollen wir uns wiedersehen, bei der Laterne wollen wir stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Unsere beiden Schatten sahen wie ein aus, dass wir lieb uns hatten, das sah man gleich daraus. Und alle Leute sollen es sehen, wenn wir bei der Laterne stehen, wie einst Lili Marlene, wie einst Lili Marlene. Deine Schritte kennt sie, deinen schönen Gang, alle Abend brennt sie, doch mich vergaß sie lang. Und sollte mir ein Leid geschehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Aus dem stillen Raume, aus der Erde Grund, hebt sich wie im Traume dein verliebter Mund. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene, mit dir, Lili Marlene. Wenn sich die späten Nebel drehen, wer wird bei der Laterne stehen? Mit dir, Lili Marlene. Mit dir, Lili Marlene.
C'est toujours sur Fréquence Paris Pluriel et nous sommes avec Carole Mann pour parler des femmes dans la guerre. Alors avant la pause musicale, nous parlions de la situation en 39-45, mais en 45, c'est la fin de la guerre justement. Et souvent on a l'image, ou en tout cas dans notre imaginaire collectif, que en tout cas pour le droit des femmes, la guerre a apporté énormément de choses. À part le droit de vote, est-ce que ça a changé vraiment quelque chose d'un point de vue pratique pour les femmes?
Franchement, je ne crois pas. En fait, il y a eu, comme après la guerre de 14, des années extrêmement réactionnaires. Et il faut comprendre un peu pourquoi. Quand on pense aux États-Unis, surtout aux États-Unis, c'est l'exemple des États-Unis, c'est en lisant The Feminine Mystique qu'on le comprend. Les soldats étaient très jeunes. Ils avaient, je ne sais plus à partir de quel âge on pouvait aller à la guerre, mais genre 18-20 ans. Et ils avaient quitté la maison étant des enfants, ils reviennent adultes et quelque part ils veulent la continuation du foyer, de tout ce qu'ils ont raté, si vous voulez. Donc la plupart d'entre eux se marient très jeunes et c'est le baby boom. Et les femmes, elles doivent suivre. Donc
elles se retrouvent femmes au foyer de suite.
Elles se retrouvent malgré elles, même toutes celles qui avaient travaillé dans les usines de munitions et ailleurs, et en Amérique, vraiment la participation des femmes avait été très importante.
Il n'y a pas dans le même temps, comme les femmes ont pu vivre seules aussi du coup pendant 4-5 ans en temps de guerre, elles ont aussi pu prendre cette habitude-là, s'en accommoder, et quand les hommes reviennent, se disent « bon, tu reviens, c'est bien, mais on avait pris l'habitude de faire sans vous, et peut peut-être aussi s'organiser différemment ». Il n'y a pas du tout ce genre de courant-là après la guerre,
mais
qui serait des courants plutôt progressistes.
Oui, mais dans les deux guerres, c'était le cas, et ça donnait des divorces. Mais là où ça n'a pas donné le divorce, c'est qu'il y a eu des réactions extraordinairement réactionnaires, je me répète, des femmes au foyer et tout ce mouvement absolument massif de retour au foyer, de femmes idéalisées. Regardez les modes des années 50, c'est la continuation des années 30, les petites tailles, les poitrines extraordinaires.
C'est la pin-up.
La pin-up.
Et cette forme, mais cette forme très traditionnellement féminine, parce que ça continue exactement les années 30, les années 50, continue cet idéal féminin de reproductrice effrénée et ainsi de suite. Mais cette fois-ci, c'est la demande de ces hommes qui ont été privés de jeunesse et qui, selon Betty Friedan, en fait, cherchaient des mères. Bon, c'est pas nouveau, hein, c'est pas la première à le dire. Sigmund ne dit que ça pendant toute sa carrière. Ce que je veux dire, il n'y a pas eu de progrès. Peut-être que des femmes, justement, ont pu rêver pour que la génération suivante soit celle des féministes, parce qu'elles ont payé le prix fort des frustrations et des échecs masculins au front. On ne gagne jamais une guerre, on ne fait que la perdre.
Et justement, comme vous travaillez aussi sur d'autres guerres, est-ce que cette situation se retrouve un peu, d'une façon peut-être sûrement différente, mais vous avez travaillé en Bosnie, vous avez travaillé en Afghanistan. Est-ce qu'il y a des similarités, en tout cas, pour les femmes ?
Pour la Bosnie, oui, dans la mesure où tous les acquis du gouvernement communiste sont passés à l'as. La sécurité sociale, l'égalité. Ah oui, ça faisait beaucoup rire les femmes yougoslaves que je rencontrais. Alors on me disait, c'est vrai que les hommes et les femmes ne sont pas payés pareil chez vous ? C'est pas possible. On s'est dit que c'est une blague. Bon. Donc maintenant, tout ça, c'est terminé. Et puis, d'ailleurs, le souvenir de la guerre est estompé. Le silence qui suit les guerres est toujours très important. C'est assourdissant. Maintenant, à Sarajevo, pour les gens qui veulent faire des recherches, c'est un peu tard, il faudra attendre. Mais c'est un espèce de retour forcené à un foyer imaginaire, évidemment, puisqu'il n'y a pas d'argent. Hein. Une montée de la religion partout, hein, dans toutes les entités qui ont composé l'ex-Yougoslavie. Donc, vraiment, un retour réactionnaire et épouvantable. Bon, la jeune génération, parce qu'il y a des référents autres, la jeune génération arrive à faire autre chose. Mais ce n'est pas facile, il faut venir d'un milieu privilégié.
Et en Afghanistan ?
En Afghanistan, bon, c'était lamentable avant, c'est lamentable aujourd'hui. Et en dépit de tous les efforts qui sont apparents, sur papier, mais qu'est-ce que vous voulez ? Quand on parle de négociations avec les talibans, il ne saurait y avoir de progrès. Non, au fond, c'est un désastre. La seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, tous les partis en Afghanistan, c'est sur l'oppression des femmes. Alors là, ils sont d'accord. Talibans, ceux qui ne se disent pas talibans, il n'y a pas une grande différence de toute façon. Mais là, la préservation du droit patriarcal dans ce qui est dans la société sans doute la plus patriarcale ou parmi les plus patriarcales sur la planète, là, l'oppression des femmes, ça y va. Et ça ne s'améliore pas.
Bon, il y a une députée ou une ex-députée plutôt afghane qui s'appelle Malala Joya, qui est assez célèbre pour être une des femmes justement qui est à la fois femme politique mais qui hausse le ton et qui part en guerre contre les chefs de guerre justement, y compris contre ceux dont le souvenir en France est plutôt comme Massoud. Et aujourd'hui c'est quand même un des symboles de la résistance afghane et c'est une femme.
Écoutez, je la connais bien, on a travaillé ensemble et en fait l'action que je fais en Afghanistan c'est justement chez elle, dans sa ville à Farah. Parler d'une résistance afghane, c'est trop dire. Il n'y a pas de résistance afghane. Il y a quelques personnes qui ont été sociabilisées par des itinéraires personnels pour arriver à dire non. Mais une vraie résistance organisée dans une population qui est à 80%, pour les femmes, 90% illettrée, on ne peut pas parler de résistance organisée. Ça, c'est un mythe. On voudrait, mais ce n'est pas le cas. Donc, donc il y a quelques individus qui savent dire non et qui savent exprimer cette opposition, mais ce n'est pas une vraie résistance, malheureusement, et je le déplore. Il faut l'encourager, ça c'est sûr.
En tout cas, entre mythe et réalité, vous pouvez lire le livre de Carol Mann, « Femmes dans la guerre 1914-1945 », et c'est aux éditions Pygmalion. Merci beaucoup en tout cas.
C'est moi qui vous remercie.
On approche, Chico. Attention, enclenche les rétrofusées.
Les oreilles loin du front qui se termine sur Fréquence Paris Pluriel 106.3. On était en compagnie de Carole Mann, on a parlé des femmes dans la guerre de 1914 à 1945. Et on se retrouve nous la semaine prochaine, même heure, même endroit. Attention, on est rediffusé ce vendredi de 8h30 à 10h. On se retrouve nous 20h30 mercredi prochain. Et vous pouvez retrouver nos émissions sur le site www.loldf.org. On était en compagnie de Aude, Raphaël, Juliette. Et on vous laisse dans les bras des échos du Capricorne.